Bienvenue dans le Paris Central Show. Troisième jour du Central Weekend. On est avec Dryas, on est avec Alex aujourd'hui, on est avec Basto. On va parler politique sportive, on va parler de Campos, on va parler du Loft, on va parler du projet jeune. Alors, salut les gars, comment allez-vous déjà? Vous voulez que je change l'ordre des caméras ou ça va aller déjà?
Non, allez, tranquille, bon. Ça va, tranquille.
Bah, Alexandre, salut à t'es en mute. Qui...
En mute, donc ouais, ça va, merci.
Déjà, on va aller droit au but. Qu'est-ce que vous pensez déjà, la première petite question, des premiers mois de Luis Campos et de tout ce qu'il a déjà fait, sans trop rentrer dans les détails, parce qu'on va attaquer dossier par dossier, mais l'impression globale, Dryas.
C'est difficile de se faire un avis. Le truc, c'est qu'il y a, il y a des pistes qui sont intéressantes, qui ont été faites, et il y a des pistes qui ont été prometteuses. Clairement, on est dans la fin du bling-bling. Maintenant, on n'est pas forcément dans le début de mettre les forces là où il faut les mettre. Donc, rapidement, je dirais ça, quoi.
Alex ?
Non, moi, je suis plutôt satisfait parce que pour une fois, on a une ligne de conduite et on s'y tient. Donc voilà, ça faisait très longtemps et voilà, après c'est vrai qu'on attend plus de choses au niveau des ventes, ça c'est normal, je suis un peu déçu là-dessus. Au niveau des achats, bon, Vitinha et Kitike, je pense que on prépare l'avenir tout en renforçant notre effectif à l'instant T, donc pour l'instant ça va, je suis pas mécontent, on va dire.
Basto.
Il reste un mois, donc c'est compliqué de se faire un avis. Je pense que même que Campos, pour se faire un avis, ce sera plutôt l'année prochaine, parce qu'il est arrivé assez tard. Maintenant, l'état actuel, c'est très mitigé pour moi. Il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément.
Pour rebondir là-dessus, je me demande, est-ce que Campos, il n'aurait pas, par exemple, un petit problème de fixation quand il vend joueur? Enfin, après, c'est une impression que j'ai, moi, j'en sais rien. Mais est-ce qu'il... Quand il vend joueur, il ne reste pas figé dessus, alors qu'il y aurait peut-être des options B. Je vais prendre par exemple le cas Skriniar, où il y avait aussi également de Ligt sur le marché. Il y avait Bremer, mais il est resté focalisé sur Skriniar, alors que l'Inter ne veut pas bouger. Donc, qu'est-ce que vous pensez des plans B et des plans C? Parce que généralement, il y a toujours un grand écart entre nos plans A et nos plans B. Et est-ce que vous pensez que cette année, ça va changer?
De Ligt, c'était quand même beaucoup, 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 beaucoup plus cher. De Ligt, c'était déjà Skriniar, c'est 70. De Ligt, ça partait minimum à 90 avec le nombre d'années qui lui restait, je pense. Basto, je vois qu'il est en train d'agiter la tête.
Je crois qu'il soit parti à
80, je crois.
Ouais, 80, voilà. Mais c'est plus cher, c'est encore plus cher, alors que déjà Skriniar, on essayait de faire baisser. Et Bremer, on l'aurait annoncé. Honnêtement, tout le monde aurait hurlé, encore un prospect, etc., etc. Le souci des marchés des centraux, c'est un marché qui est assez bloqué avec les joueurs qui sont très forts, qui sont à leur poste, qui sont installés dans les clubs depuis des années. Et c'est pas si simple. Maintenant, quand tu dis ça, ça se mélange pour l'instant. On n'a pas assez de recul pour vraiment juger Campos là-dessus. Il y a cette espèce de truc de je vais pas payer plus cher que ce qu'il faut, blablabla, qui peut-être qui fait qu'il se fixe. Mais c'est trop tôt pour se faire un avis. Après, De Ligt, je pense que c'est pour le coup, c'était plus cher.
Après, il reste quand même un mois et on sait que le marché des transferts s'ouvre vraiment vers les 15 derniers jours. Donc, ouais. Je pense que Campos, il attend vraiment de faire craquer l'Inter. L'Inter a besoin de vendre. Donc, je pense qu'il joue vraiment sur cette corde-là où je pense vraiment qu'il est vraiment dans l'attente. Il sait que Skriniar, il n'y a pas vraiment d'autres clubs qui les veulent. Donc, il fait jouer la patience. Tandis que, par exemple, les Renato Sanchez ou par exemple un Scamacca, Renato Sanchez, tu sais que tu as le Milan AC derrière. Qui peut partir à tout moment. Donc là, forcément, on lui demande d'être un peu plus rapide et de ne pas non plus trop jouer sur la négociation pour 2-3 millions d'écart. Mais pour le cas Skriniar, je trouve que voilà, il fait bien parce que Skriniar, il n'y a pas d'autres clubs vraiment qui le veulent et que l'Inter est obligé de vendre. Donc il va jouer sur la patience et il va essayer de faire craquer l'Inter sur les derniers moments du marché des transferts, à mon avis.
Ouais, c'est une stratégie risquée, on verra bien ce qui se passe. Si Skriniar vient, il aura eu raison. S'il ne vient pas, il faudra voir derrière s'il y a un plan B. S'il n'y en a pas ou s'il est un peu fait à l'arrache, ce sera plus compliqué. Après, Skriniar est blessé, donc de toute façon, il n'aurait pas pu faire la prépa. Mais c'est vrai qu'attendre pour les autres postes, peut-être la fin du mercato, les dernières semaines, sachant que la Ligue des Champions cette année est très resserrée, qu'on commence dès septembre et qu'un nouveau système est long à mettre en place, c'est assez risqué. Il va falloir aller vite et pour le moment, on ne va pas assez vite à mon goût. Maintenant, on verra bien.
Je vais rebondir sur ce que dit Bastos, Annick, si je peux. Mis à part le fait que Bastos dit toujours des grandes bêtises, mais ça, c'est un autre débat et on ne va pas rentrer dedans. On n'est pas là pour faire le procès de la basse-tête, hein, n'est-ce pas? Non, c'est
juste... Cache prison.
c'est juste qu'on a. Moi, je suis un peu échaudé en fait des transferts dans les dernières semaines d'août. On en a connu beaucoup sur les dernières saisons. Ça a rarement été. Enfin, oui, si c'était bien si tu te fixes dans la définition de Leonardo du mercato qui est un marché d'opportunité. Maintenant, on est là, en tout cas au niveau des intentionnalités, et comme Bastos l'a rappelé, on est sur un marché de construction. Et donc, attendre vraiment la dernière semaine, c'est pas super chaud, quoi. Parce que si ça te pète à visage et finalement tu vas trouver autre chose parce que tu es obligé d'aller trouver quelqu'un et que c'est encore une personne avec qui tu te retrouves avec un contrat long, enfin bon, on connaît tous l'histoire et elle est pas cool, quoi.
Ouais, je vous rejoins, bien sûr, on aurait tous aimé avoir un effectif prêt pour la rentrée ou 2-3 semaines après le championnat. C'est vrai que oui, je suis pas vraiment content qu'on insiste sur des joueurs comme ça, sur Scamacca, Skriniar. Maintenant, je pense que s'ils souhaitent vraiment Skriniar, c'est parce qu'ils pensent que c'est l'élément manquant à notre dispositif défensif. Et il fera tout pour l'avoir. Mais c'est vrai que oui, évidemment, j'aurais aimé que ça se fasse plus rapidement. Mais bon, on sait que le marché des transferts est compliqué depuis le Covid. C'est très lent. J'ai l'impression que toutes les négociations sont assez lentes, surtout au PSG. Mais je garde quand même confiance. Je pense qu'il arrivera assez rapidement.
Ah, on va essayer de rebondir un petit peu sur François qui pose des questions assez intéressantes. Il parle de Nasser El-Khelaïfi avec Antero. Est-ce que c'est pas eux qui gèrent les négociations et pas Campos? Et il y a François qui nous dit également il a raison de faire durer les négociations. On est en position de force, sauf si Chelsea bascule de Koundé à Skriniar. Alors ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand vous avez dit qu'on est seul sur Skriniar. Là, de ce que j'ai entendu ce matin, Chelsea, ils sont un peu en mode panic buy. Et selon les rumeurs, ils auraient même fait une offre d'à peu près 50 millions pour Kimpembe. Est-ce que le dossier Skriniar, on est vraiment garanti, entre guillemets, d'être les seuls dessus? Est-ce que ça ne peut pas partir en vrille d'une minute à l'autre?
Bah, Kimpembe, pour le coup, Kimpembe et Skriniar, ce n'est pas le même côté, quoi. Tu vois, c'est Chelsea, ils sont un chien d'un central gauche et Skriniar, c'est un central droit. Alors, il peut jouer de tous les côtés, mais...
Ouais,
mais...
Regarde, Chelsea voulait Koundé qui était un central
Koundé,
droit.
Koundé, ouais, c'est ce que j'allais dire, il est à droite.
Non, bah écoute, moi j'en sais rien alors. ouais, mais j'entends la remarque. Oui, on a toujours raison de jouer les plus fins au niveau financier. La remarque qu'on a lue, on a toujours raison et c'est tant mieux si on peut payer moins cher, etc. Mais l'autre priorité, c'est d'avoir un effectif complet, de ne pas te retrouver en carafe sur un poste où tu as un vrai manque. Et ça, on connaît déjà, quoi.
Ah, il y a une autre chose qui me. C'est a priori. Selon plusieurs journalistes, etc., on cherche encore un attaquant. Je ne comprends pas cette stratégie. Alors, on veut un attaquant de surface, pourquoi pas? Mais on sait très bien qu'on fera jouer Neymar, Messi, Mbappé et qu'on ne peut pas en mettre un sur banc. On a déjà Ekitike, il y a déjà Kalimundo, il y a même Sarabia. Si on cherche un autre attaquant pour juste faire Renato au milieu, il y a un truc que je ne comprends pas là-dedans. C'est vraiment le dossier qui me chafouine le plus. J'arrive pas à comprendre exactement ce que veut Campos et ce que veut le club là-dessus.
Je dire un tout petit truc. Il y a le commentaire écrit par un mec, je sais pas, un youtubeur qui s'appelle Tonton, qui était un commentaire un peu à chier, quoi, franchement. juste pour info, Tonton, hein, sois en courant. Chelsea a déjà joué la carte Skriniar, ça a déjà été fait, ils vont pas le faire trois fois.
Vas-y, Alex.
Non, ouais, c'est vrai que je rejoins un peu Bastos sur le profil d'attaquant qu'on souhaite. C'est vrai qu'on veut un attaquant de surface capable de jouer dos au but et de soulager tout un bloc équipe quand la pression adverse est haute, mais on l'a cet attaquant avec Kalimundo, pas forcément ses performances du top top niveau pour l'instant, mais c'est pas une priorité selon moi et je préférais qu'on renforce vraiment notre milieu de terrain plutôt qu'on se mette à la recherche d'un attaquant de surface alors qu'on soit c'est pas notre priorité et on l'a déjà un peu avec Kalimundo dans notre effectif.
Et il y avait aussi le commentaire sur est-ce que les transferts sont négociés par le duo NAC et Enrique. A priori, c'est comme ça que ça a été dessiné, mais il y a des choses qui se passent, il y a des rumeurs qui commencent à monter où tout ça doit être équilibré. Et pour l'instant, il y a pas mal de...
Je pense que Campos, il doit fixer une limite de prix, etc., etc., puis c'est aux autres de négocier. Je pense qu'au départ, c'est Campos et à la voilà, fin, c'est les deux autres.
Déjà, faisons jouer des gens à leur poste avec une vraie organisation tactique. Exemple, Kerrer à son poste, c'est convaincant et Kalimundo aussi.
J'ai vu Kerrer, c'est convaincant, ça m'a.
Bah, si tu n'amenais pas
sans tous. Hyperventilation.
Si tu n'amenais pas sans tous, Kerrer, c'est très convaincant. Il n'y a pas de doute. Non, mais le mec, il t'en paie à chaque match.
Ah, hier, il en a fait 3-4 encore.
vraiment
Mais
convaincu.
vous êtes plus ou moins en accord avec la nouvelle politique qui consiste à ne pas trop dépenser et même à chipoter entre guillemets pour des 3-4 millions par exemple sur Renato Sanchez?
Alors, 3-4 millions, pour moi, j'ai plus de mal parce que bon, 4 millions, je pense que ça va se faire, Renato. Je pense que ça va se faire autour de 15 millions. Vraiment là-dessus, je pense que voilà, il chipote pas pour 3-4 millions. Par contre, moi, le cas Skriniar, ouais, totalement. Moi, je suis pour Campos totalement, du sens où c'est bon, il faut arrêter de surpayer un joueur. Il arrive à la fin de son contrat l'année prochaine. 70 millions pour un joueur qui a la fin de son contrat dans un an, c'est beaucoup trop. Voilà, se fixer une limite, pardon. Voilà, 55, 50, et de ne pas aller plus loin et voir si les divers, si c'est là où je lui reproche. S'il voit, ça fait un mois que les négociations durent, il aurait dû changer de plan et aller voir ailleurs. Mais sinon, ouais, sur le fait de vraiment de plus surenchérir sur un joueur alors que voilà, de plus être le pigeon de l'Europe, moi, ça me fait plaisir pour une fois, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on a une ligne conductrice et on s'y tient. Et voilà, et je pense que le salut du PSG passe par là. Pour que le PSG soit respecté et soit plus fort sur le marché des transferts, il faut qu'on arrête d'être les vaches à lait de toute l'Europe. Comme voilà, dès qu'on arrive, le prix augmente de 40%. Je pense que si le PSG montre cette année que c'est fini, qu'on arrête de gonfler les prix des transferts, je pense que dans les années précédentes, et comme l'a dit Basto, c'est là où on pourra vraiment juger Campos. Je pense que sur les années suivantes, là, on pourra vraiment négocier les prix à notre façon et sans, voilà, sans faire attention aux autres clubs.
Ouais, mais notamment l'Inter de Milan qui, en 2 ans, nous a déjà pris 130 millions, je crois, avec Hakimi plus Icardi. Là encore, ils veulent encore 70 millions. J'ai l'impression que l'Inter pense
Ils ont raison d'en profiter.
qu'on les finance. J'ai l'impression qu'on est propriétaire de l'Inter de Milan, parce que chaque année, j'ai l'impression qu'on réinjecte plus d'argent dans l'Inter de Milan que dans notre mercato à nous.
Alors, par contre, si autant pas chipoter sur 3-4 millions pour les arrivées, je suis d'accord. Par contre, sur les départs, honnêtement, s'il y a des joueurs où tu as des offres à 10, j'espère qu'on va pas chipoter en demandant 12 millions parce que là, ça va être un gros problème et il n'y a personne qui va partir.
Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que sur les ventes, on est pressé, il y a des indésirables, il faut pas chipoter, il faut à 10 millions dès qu'il faut partir, il faut que ça parte. Ouais. Mais ouais, non, mais sur le fait de plus surpayer, je pense que c'est une bonne idée de Campos. Voilà, il veut imposer que le PSG est fort et dominant sur le marché des transferts et ça passe que comme ça.
Après, l'autre question, c'est est-ce qu'on a vraiment un budget resserré aussi? Donc, ça se trouve, il est aussi dans l'obligation de le faire.
Il y a un truc, je vais me faire l'avocat du diable parce qu'au fond, je suis d'accord avec toi, Alex. Mais voilà, tu te retrouves pas avec certaines pistes cet été. Tu as certains déséquilibres dans l'effectif que tu vas payer cash dans la saison et qui vont pas te rendre service pour la continuité du projet. Donc, ça
Oui,
aussi, c'est à prendre en compte. Et notamment, quand on parle de Skriniar, c'est un manque criant. Dans le club, on l'a vu, Ramos à droite, ça le fait pas. Kerrer à droite, ça le fait pas plus. T'as besoin d'un joueur à ce poste-là, tout
on
simplement.
l'aura. Je suis pas inquiet là-dessus. Je pense que voilà, il reste encore un mois.
Okay.
Je
Si
pense qu'on l'aura.
je me ranger derrière ta conscience, mais j'espère que ça passe.
Je suis moins inquiet pour le DC que pour le milieu, parce que Renato Vitinha, ça suffira pas. J'ai l'impression qu'on ne va pas sur le joueur profil manquant vraiment. Ça m'inquiète un peu, surtout dans ce système. Je sais pas.
Mais moi, mon problème avec le milieu, c'est qu'au fond, tu as l'impression, vu la manière, alors c'est à confirmer avec le match à venir de demain, mais tu as un petit peu l'impression, vu des compositions qui ont été alignées, que Vitinha, dans l'idée, c'est plus un joueur un peu comme Marco Verratti, et que la joue le Ouais, pour certains, c'est même cher à hein, Marcin Coca. Et que le joueur à côté, là je rejoins Basto, n'a pas été trouvé. Et en soi, c'est vrai qu'on a besoin d'un patron au milieu. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas encore capable d'imaginer notre milieu avec ce qu'on est en train de mettre en place. C'est compliqué.
Ah bah, j'ai l'impression qu'on tombe encore dans l'erreur, notamment Gay qui est beaucoup aligné, on en parlera tout à l'heure, ou Renato, on tombe un peu dans l'erreur de, avec les trois attaquants de devant, il faut quelqu'un qui court au milieu, quelqu'un qui court pour nos attaquants. Et on fait cette erreur
Mais
depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans.
le truc, c'est que Vitinha, sur le troisième match, sa rentrée,
Ouais.
il ne fait que ça. Et il est exactement utile là-dedans. Il a plus de profil.
On verra bien les premières compos, hein, mais c'est vrai que si Vitinha est vu par le staff comme une doublure de Verratti,
Là, c'est un
ça
problème.
va pas
Là,
nous
c'est un
plaire.
énorme problème. Là, c'est un énorme problème.
Il y a David qui nous disait justement en parlant de prix, est-ce que vous avez vu que Scamacca il a été vendu finalement pour une quarantaine de millions et pas les 50 millions qui étaient exigés au
Oui.
PSG?
Et c'est tant mieux, c'est bah voilà, c'est nous on a fixé un prix, je pense qu'on ne voulait pas aller plus loin que 35 et j'étais d'accord avec ce profil, avec cette idée-là. C'est un profil qu'on n'a pas, c'est un excellent joueur, mais il ne vaut jamais 50 millions à l'instant T et Campos était sur cette ligne directrice. Et voilà, bah, tant pis, il partira à West Ham. Mais au moins, on sait qu'avec Sassuolo, bah, on ne se fera pas prendre pour des, excusez-moi du terme, des cons. Et voilà, et qu'on voudra négocier un joueur avec eux, bah, au moins, ils seront au courant que le PSG, aujourd'hui, bah, n'est plus une vache à lait, ne dépense plus n'importe comment, n'est plus le pigeon de l'Europe. Et voilà, au moins, là, on fait passer un message clair. Et je trouve que c'est très bien maintenant, en espérant que pas, surtout pour le cas Skriniar, c'est qu'on ne perdure pas dans le temps et qu'à la fin, le 31 août, on se retrouve sans solution B. Là, oui, j'aurais du mal à le comprendre. Mais pour l'instant, je ne suis pas trop inquiet. Il reste encore un bon mois de mercato. Donc, voilà.
Il y a pas mal de bons commentaires là, qui perturbent le sens dans lequel je voulais partir dans l'émission, mais des questions qui sont assez intéressantes. Déjà, il y a Perry qui demande pourquoi on ne se positionne pas sur un profil Ligue 1 au niveau du DC. Vous avez des idées en Ligue 1 ? Surtout toi, Basto, tu regardes beaucoup la Ligue 1.
Moi, à part le Kiba, c'est un axel gauche. J'ai personne d'autre axe droit, j'ai vraiment pas d'idée.
Ah non, DC au pire, si tu veux vraiment un mec qui est en troisième rotation... Je peux aller en chercher, mais je vois pas qui à le niveau pour être titulaire.
Oui, surtout à droite, quoi.
Surtout à droite. Oui. À gauche, ouais. Il y a Lukeba. Lukeba, je l'aurais pris tous les jours.
Mais, Lukeba, il est super fort. Ouais.
Ouais, mais il y a Dante, mais il est sur la fin.
Ouais, il a 39 ans, oui.
Non, mais à droite, c'est dur d'en voir. Enfin, après, moi, peut-être que je vois moins de matchs de Ligue 1 que vous, mais.
Il y a Alvaro parce qu'il aime le PSG.
À droite,
il y a pas loin. Et il y a aussi Ricky qui nous pose une question intéressante. Il nous dit, est-ce que le cas Renato, ça condamne Thuram pour vous ou pas?
Pour moi, oui, parce que c'est deux profils quasi similaires et surtout que Nice demande beaucoup d'argent, j'ai l'impression. Donc, je pense qu'on s'est dirigé vers Renato parce qu'il y aura moins d'argent à débourser. Mais c'est dommage parce qu'on aurait eu les deux. On aurait eu un titulaire et un remplaçant avec quasiment le même profil. Donc, moi, je pense que ça condamne, mais après, ça dépend aussi des exigences de Nice, comme d'habitude.
Je vais vite fait dire ce que je dis tout le temps sur Thuram. Thuram, c'est un joueur qui, l'année dernière, commence la saison en étant remplaçant. commence à gagner pas mal de temps de jeu en deuxième partie de saison. Mais une fois que les matchs comptent, c'est-à-dire à partir de la 30e journée, bah, tout de suite, il va beaucoup, 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 beaucoup sur le banc. Ça veut dire quoi, les enseignements que t'en tires? C'est que c'était sa première saison pro. Quand les matchs comptent, ouais, on lui fait confiance, mais quand les matchs comptent, on lui fait pas confiance. Laissez-lui ne serait-ce que faire une saison pro à Thuram avant de venir le réclamer, quoi.
Moi, et moi. Ah, salut Barry.
Salut Barry.
Ça va quoi l'équipe?
Moi, je pense heureusement plutôt qu'on fait pas Renato et Thuram parce que c'est bien d'avoir plusieurs profils différents parce que je ne crois pas à une association de Verratti avec un profil comme Renato ou Thuram. Donc, si ça peut nous empêcher d'avoir Galtier qui est obligé de faire une association avec un titulaire et un remplaçant un peu du même profil, même si c'est pas exactement la même chose, ça me va plutôt.
Bah, la première doublette, c'est Verratti-Renato et la deuxième doublette, c'est Vitinha-Gaïté.
Bah, peut-être ce sera Verratti-Vitinha, hein, on ne sait jamais.
Laisse-moi
un peu rêver.
je vais passer à une autre question et je vais la laisser à Barry. Barry va faire un peu mon taf.
Vas-y, Barry.
Barry, il y a Nicolas qui nous dit... oui, t'as bougé. Nicolas, il nous dit qu'il prend. Non, c'est... Ouais, c'est ça. Il nous dit je comprends pas qu'on ne se positionne pas sur De Jong. C'est le bon moment pour tenter un coup en plus.
Alors moi, les gars, je pense que c'est un peu une histoire d'argent avec De Jong. C'est très très cher. Et le vrai problème du Paris Saint-Germain, c'est que ok, d'accord, t'as les Qataris derrière qui mettent de l'argent, etc., qui injectent, etc. Enfin, potentiellement, on ne sait pas, mais je pense que là, il y a un gros problème de trésorerie au club, étant donné qu'on n'arrive pas à vendre de joueurs et les revenus marketing ne sont pas assez élevés pour nous permettre d'aller chercher des joueurs. Et puis, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que je pense que le club, ce n'est pas mettre 80 millions sur De Jong qui va être dur, c'est la masse salariale que ça va ramener. De Jong, il touche 25 millions à Barcelone, donc il ne viendra pas pour moi. En sachant que là-bas, il est au soleil, que sa copine va pas partir et qu'il est à 25 millions. Tu vois? Donc ça, c'est le premier vrai problème. Et donc, tu te rajoutes de la masse salariale en sachant que tu n'arrives pas à dégraisser. Je vais me répéter encore, mais quand dans ton club, tu as des mecs comme Herrera qui sont payés 8 millions, des Kurzawa qui sont payés 5 millions.
Gay!
Wijnaldum qui je crois est payé 12 millions. Gay, je sais plus la combien, mais 6. Gay en soi, j'ai envie qu'il parte, mais c'est pas un des plus gros salaires.
6 millions, je crois, Gay, non? C'est pas 6 millions, Gay?
Ouais, non, je crois qu'il est à 4, un truc comme ça. Mais bon, bref, tu vois. Pour te prendre un exemple tout simple, c'est simple. Hein. De Jong est à 25 millions. Donc, si tu veux aller chercher, en sachant que le Barça veut le faire partir, il faudra que tu te positionnes sur les 25 millions. La logique, le calcul est très simple.
Il est à 25 millions.
Tu as Gay, ouais, là cette année passe à 25 millions, c'est pour ça que le Barça justement a envie de s'en débarrasser à tout prix. Parce que dans son contrat, la troisième année passe à 25 millions. Et donc, ce qui fait que c'est le milieu le mieux payé du monde. Mais tu vois, tu fais un calcul tout simple. Il me semble que Wijnaldum 80 millions en transfert. Il me semble que Wijnaldum est à 12 millions, que Herrera est à 8 millions et que Kurzawa est à 5 millions. Donc là, tu as trois joueurs qui sont à la masse salariale de De Jong. C'est dur, les gars.
Et je reviens dans le game pour qu'il y ait qui a une grosse frappe qui est partie des 30 mètres et qui a fini en pleine lucarne. Et c'est Florent qui... Merci Florent. Et qui prend le relais, prend la parole, il dit De Jong, pourquoi
c'est
pas.
C'est pour nos finances, pour le faire blé financier. Merci pour
mais
les 10 euros.
Pour moi, afin d'équilibrer les finances en vue du fair play financier. Possible d'être de retour malgré cela, je vous kiffe. On te kiffe aussi Florent, merci beaucoup. Vas-y Barry, je te relève.
Florian, merci beaucoup hein, parce que les dons, ça nous aide à nous développer, ça fait énormément plaisir, ça prouve qu'on ne travaille pas pour rien. Et du coup, pardon, j'ai pas vu le commentaire en entier. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait De Jong, pourquoi pas les voir pour vendre afin d'équilibrer les finances.
Bah, ça, oui,
ouais, après je vais laisser la parole aux autres. Mais oui, mais à un moment aussi, je pense que le club a changé de direction sportive. Et j'ai fait une vidéo avec Nick où on parlait de l'interview de Nasser, et à un moment il parle de ça. Il dit qu'au-delà du fait que Campos est venu pour faire le directeur sportif, te trouver des pépites et des joueurs clés dans ton projet, il te dit aussi que y a une volonté aussi du club de faire de l'argent à travers les ventes, etc. Donc je pense qu'à un moment, acheter pour acheter, c'est bien, mais si tu ne vends pas derrière, tôt ou tard, tu vas te retrouver comme le Barça. Hein.
Et puis surtout qu'on oublie un peu qu'il y a eu la période de Covid qui n'a pas encore été digérée. Hein. Ça fait que 2 ans que cette énorme pandémie a eu lieu.
200 millions de pertes par an.
Voilà, et donc voilà, 200 millions de pertes, il faut les compenser. Évidemment, et vu qu'on ne vend pas, comme l'a dit Barry, bah forcément, on resserre un peu la ceinture. Donc les gens pensent que le PSG est encore un club où ils peuvent dépenser n'importe comment. Non, la preuve, c'est qu'on négocie des prêts avec option d'achat. C'est que les finances ne vont pas super bien. Et donc voilà, on est obligé de. On peut plus mettre 80 millions par-ci, 80 millions sur un défenseur, 80 sur un attaquant. On est obligé de recruter un peu plus intelligemment, moins cher. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a fait venir Campos. C'est pour justement trouver des joueurs à moindre prix qu'on pourra revendre plus tard bien plus cher. Et notamment Vitinha. C'est pour ça que voilà, comme je l'avais dit lors de l'arrivée de Vitinha, on aurait pu se jeter sur un De Jong à 80 millions. Mais on a préféré prendre un joueur à. Je ne vais pas les comparer, loin de là, je ne vais pas rentrer dans ces genres de comparaisons, mais qui ont à peu près le même profil, et on préfère payer 40 millions parce que plus tard, dans 2-3 ans, peut-être que Vitinha vaudra 80 millions et aura le même talent que De Jong. Donc je pense vraiment qu'on a fait venir Campos pour ça, pour éviter de surpayer, de payer tout le temps des gros montants, et plutôt de chercher des pépites pour pouvoir les revendre et remettre nos finances à l'état.
Attendez, c'est le multiplex Ligue 1, je viens pour annoncer un but sur notre terrain de Ligue 1. Et c'est Samir qui nous dit De Jong, je galère déjà à dégraisser. Merci Samir. Alors, est-ce une bonne idée d'aller dire davantage d'un match salarial? Merci beaucoup Samir.
Et grâce ça fait à Samir, il ne reste plus que 24 millions 999
000. Moi, le truc en fait, c'est que De Jong, c'est ouais, t'as lourdé ta masse salariale, mais le truc, c'est qu'il y a un manque criant de leadership, à la fois en charnière, mais un manque criant de leadership au milieu. Il date en fait depuis un certain Thiago Motta, et ça fait pas mal d'années que le leadership au milieu, il s'est fait la malle. Et s'il y a un endroit où tu peux casser aussi ta tirelire, ce serait bien au milieu. Alors après, si c'est 80 millions, clairement, on les a pas. Il y a un moment, moi, tu m'as fait complètement bugger quand tu parlais de 25 millions. J'avais pas compris que c'était sa masse salariale. Je croyais que c'était prévu de transfert. Il est payé. Alors, il y allait, quoi. Alors. Voilà, j'avais pas compris quoi, mais oui, il y a la problématique de la masse salariale, mais il y a aussi la problématique de la défaillance du leadership au milieu de terrain qui se répète année après année après année après année après année depuis Mota. Je vais pas recommencer à parler des Stambouli, des Krikoviak et consorts, hein, on a tous vécu ça. Mais voilà, il y a un moment, il va falloir s'occuper du milieu. Et Vitinha, c'est une très bonne chose. Honnêtement, c'est une très bonne chose. Moi, c'est un joueur, je l'ai vu évoluer de match en match. J'ai vu progresser, j'ai vu des choses différentes. Et je l'ai vu. Enfin, en gros, il comprend ce que c'est un joueur qui a la qualité de comprendre que lui demande l'encadrement. On lui a dit clairement, on lui a dit de l'écarter. Il a fait beaucoup plus sur ce match-là que les deux précédents. Et voilà. Mais est-ce que tu as ton duo titulaire? Enfin, moi, pour l'instant, je suis en train de me dire, j'espère, je prie pour qu'ils nous mettent Verratti et Vitinha, mais même t'as Verratti et Vitinha, est-ce que t'as ton duo titulaire pour aller en Ligue des Champions dans les matchs qui comptent? Oui, en soi peut-être, mais t'as pas de certitude. C'est pas assez solide. Tu vois, c'est pas complet, et donc à partir de là, s'il y a la possibilité de faire De Jong, bah tu penses maintenant 80 millions clairement.
Ouais, mais de toute façon, De Jong veut pas partir du Barça, donc à partir de là, c'est réglé. Ah, il a refusé United, il veut rester au Barça, il a une masse salariale. Je veux réagir aux commentaires Fofana. Bah, on en a déjà parlé hier. Profil box to box au PSG avec Verratti, on n'y croit pas, notamment pour les transitions défensives où on risque de prendre l'eau. Et il y a aussi quelqu'un qui disait qu'on disait n'importe quoi parce qu'on dit que Thuram est même profil que Renato, et pour lui Thuram était un 6. Thuram, il était clairement 8 haut à Nice avec Rosario derrière lui, il était même parfois ailier gauche. Donc.
Ouais. Alors après attention Basto, Thuram il peut aussi jouer 6. Hein.
Oui oui bien sûr, mais il a joué essentiellement 8 l'année dernière, comme ouais, Renato peut aussi jouer 6.
Par contre, je suis d'accord avec le commentaire qui dit oui, il peut jouer 6. Mais par contre, ça, c'est quand même une part d'hypocrisie, parce que oui, il est formé en tant que 6, mais personne n'avait joué 6. Donc, c'est bien beau de dire que c'est un 6, mais personne ne l'a vu jouer 6. Personne ne regarde ses entraînements. Donc, s'il vous plaît, les gars. Parce que ça, c'est un truc qui est récurrent, que je vois sur les réseaux. Oui, mais
ah, Gavroche.
Il va jouer Regista, etc. Personne ne l'a vu dans ce registre-là, donc on ne sait même pas s'il sera bon. Il était formé en tant que tel, mais si Galtier le faisait jouer 8, c'est peut-être que 6, c'est peut-être pas la meilleure manière d'optimiser ses
Il y a du mal dans le domaine défensif, donc c'est un peu ouais. Mal.
Après, à voir, après, attention à voir.
Sujet suivant.
Sujet suivant. C'était quoi le sujet suivant?
Je vais sur le sujet.
Ah oui, le loft. Voilà, le loft.
Ah, faut tout le dire.
Les gars, j'avais oublié, excusez-moi. Avant d'amorcer le sujet suivant, les gars, on est 177 dans le live. Alors, s'il vous plaît, les pouces. Je me mets un objectif de 130 pouces. Je veux 130 pouces, sinon je viens vous chercher. Vous savez, moi, je suis monsieur pouce. Donc, 130 pouces, s'il vous plaît, avant la fin du live. Ça nous fait plaisir et ça nous aide au référencement. Et on passe un bon moment, tout simplement. Alors du coup, je voulais qu'on parle du loft. Adrias, il semble être parti, donc je vais donner la parole à Alexandre. Alexandre, que penses-tu du… Ah, Adrias est de retour.
Donc, il est reparti.
Donc Alexandre, que penses-tu du loft? Est-ce que tu penses que c'est…
Quel gamin.
Est-ce que tu penses que le loft, c'est la bonne manière de virer nos indésirables? Et est-ce que tu penses que c'est un geste qui manque de classe, ou est-ce que tu penses que c'est un geste qui est nécessaire au Paris Saint-Germain?
Alors, ça aurait été un geste qui manque de classe si nos indésirables étaient classe avec nous, ce qui n'est pas le cas, évidemment. Donc, je trouve que c'est la bonne méthode, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. On voit d'un côté, au Portugal d'ailleurs, que c'est tout l'inverse. Il n'y a pas de loft. Par exemple, l'entraîneur Roger Smith a pris 40 joueurs avec lui lors de sa tournée de pré-saison. Et justement, c'était justement pour valoriser les indésirables. Donc, c'était tout l'inverse du PSG. Nous, on préfère faire un loft et les mettre à l'écart. Visiblement, pour l'instant, ça ne marche pas. Mais c'est bien d'un côté, comme ça, ça leur fait clairement comprendre qu'ils ne vont pas jouer de la saison, qu'ils ne comptent pas pour nous. Et ça permet de travailler avec l'effectif qu'on souhaite avoir durant la saison. Et voilà, je trouve qu'en fait, on se met à leur niveau, c'est-à-dire qu'ils ne nous respectent pas, ce n'est pas un geste de classe. Voilà. Donc, on se met à leur niveau maintenant, c'est vrai. Je me mets à la position des joueurs. Ils n'ont pas forcé la main pour leur offrir des tels contrats. C'est le PSG, c'est Leonardo, c'est tout ce qui va avec qui leur a donné ces contrats-là. Eux, ils veulent aller au bout. Maintenant, je ne comprends pas leur mentalité. C'est vrai que je pense qu'ici, on a tous rêvé d'être joueur pro. Ce qu'on souhaite, c'est jouer au foot et pas forcément être payé à rien faire, surtout quand tu fais du foot pour ta passion. Donc voilà, c'est vrai que moi, le loft, je suis totalement d'accord parce que voilà, ça permet de leur faire comprendre que si tu ne veux pas partir alors que tu as des offres et que tu as la possibilité de partir ailleurs et que tu refuses, tant pis, tu vas t'entraîner ailleurs et nous, on ne compte pas sur toi. Et c'est le message qu'on doit faire passer.
Très, très rapidement, je viens d'apprendre qu'Alex est donc très très content de jouer toute la saison avec Gaï.
Excuse-moi, quand je parlais de manque de classe, tu vois, par exemple, je vais te prendre l'exemple d'un joueur, moi-même je tire énormément sur lui, que ce soit sur les réseaux ou même sur l'émission, mais je vais te prendre l'exemple de Kurzawa. Pourquoi je te parle de manque de classe? Kurzawa, il y a quelques saisons, je crois que c'était après le Final 8, la Juventus vient toquer à la porte. Ils veulent le récupérer. Le PSG bloque le transfert. Il le bloque. Il ne veut pas le faire partir. Pas de souci. Kurzawa arrive en fin de contrat. La Juventus se repositionne sur lui. L'OL se positionne sur lui. Le Paris Saint-Germain le prolonge. Il donne 5 millions. Ils lui disent, on te donne ça. À aucun moment, il parle de. Il y en a qui disent oui, mais Leonardo lui avait dit que c'était pour le vendre derrière, etc. On n'a rien entendu du tout. Mais bon, bref. Donc, le club lui offre 5 millions et lui dit qu'en gros, il compte sur lui. Puis au final, l'année d'après, ils lui disent bah, là, il faut que tu partes. Mais moi, je suis désolé, hein, malgré que Kurzawa est un joueur sur lequel je tire énormément et je n'ai plus envie de voir au Paris Saint-Germain. Mais moi, je me mets à sa place. On me promet des choses. Plusieurs fois, j'ai vu partir à droite, à gauche. On me retient pour après me dire que derrière, bah, je pèse sur la masse salariale. Bah, dans ces cas-là, les gars, fallait pas me prolonger. Tu vois
C'est
ce que
pour
je
ça
veux dire?
que c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que j'en veux pas énormément aussi aux joueurs.
Ouais, voilà.
Je peux les comprendre. Je peux
En fait,
comprendre,
le
c'est pas
problème.
eux qui mettent les couteaux sur la gorge pour prolonger. C'est pas eux qui. Voilà. C'est pour ça que d'un côté, je peux comprendre aussi la position des joueurs. Mais moi, je me mets en tant que passionné, et c'est pour ça aussi qu'il y a un problème aussi d'objectivité, peut-être. Je suis pas à leur place. Moi, je me mets à la côté du supporter. Ce que j'aime, c'est jouer au foot. Donc moi, voilà, ne pas jouer au ballon pendant un an et juste recevoir mon salaire, c'est pas quelque chose que je
Ouais.
conçois. Maintenant,
Le
pour
pro.
eux, voilà,
Ouais,
je veux dire.
vas-y. Le problème, je pensais même pas si c'est manque de classe ou pas, c'est que c'est on fait un demi-loft, quoi. T'as Gueye qui est censé être dans le désirable, qui se retrouve à jouer titulaire au Japon. T'as Icardi qui a joué le dernier match titulaire, t'as Kerrer, t'as Diallo, et puis tu comprends pourquoi Gueye plutôt qu'Herrera, pourquoi Dina Ndimbe en fin de contrat dans 6 mois, alors que t'as Théo Baldé qui revient d'une bonne saison en Ligue 2, qui lui c'est son poste piston droit, qui pour moi est plus fort que Dina Ndimbe, on l'a vu hier, notamment à ce poste. Comment il est fait ce loft et pourquoi certains joueurs à la place d'autres? C'est pas très compréhensible. Soit t'en fais un à 100%, soit t'en fais pas. Je comprends pas exactement la stratégie là-dessus. Ça a été expliqué qu'on voulait un loft et à l'arrivée, on fait un entre-deux qui ne me plaît pas beaucoup.
Moi, je voulais juste réagir. Ouais, vous avez raison, hein, sur le chapitre humain, puis même au niveau du droit, les lofts, ça pose problème, tout ça, tout ça. Mais maintenant, on est dans un club où le directeur sportif a annoncé, enfin, je sais plus exactement si c'est lui qui l'a dit, mais en gros, ça vient de sa bouche qu'il allait faire un loft. Donc, on est dans cette réalité-là. Et je suis complètement sur la ligne de Basto. Alors après, on peut parler éthique et tout ça. Et effectivement, il y a des choses à redire. Néanmoins, on a l'intention d'en faire un. On se retrouve avec des joueurs qui sont quand même dans une situation où leur situation elle-même est critiquable, qui sont des mecs qui sont dans un mode bon, bah, pourquoi pas prendre mon chèque et ne pas jouer, c'est pas grave si je suis payé pour être footballeur et je n'ai plus l'ambition d'en mettre un, qui en soi, tu pourrais en débattre dans tous les sens. Néanmoins, on a dit qu'on en faisait un, et là, tu te retrouves avec un espèce de demi-loft, avec des joueurs qui devraient y être, qui finalement n'y sont plus, tu comprends pas pourquoi ceux-là, pas les autres, etc. Tout n'est pas clair, la problématique, c'est le manque de lisibilité, c'est le brouhaha, c'est tout à coup le signifiant. Quel est le signifiant? Tu t'avais clairement annoncé, hein, les joueurs avaient filtré dans la presse, quoi. Et ça a été contredit dès le jour où tu pars au Japon. Donc là, il y a vraiment un problème.
Pour répondre à un commentaire qui demande où est-ce qu'on a vu le loft, c'est les Herrera, les Draxler, etc., les
Ouais.
Wijnaldum, les Kurzawa, les Rafinha qui ne sont pas dans la tournée au Japon.
Alors, qu'est-ce que je pense du loft? Bah moi, je pense que par rapport au salaire, je ne tirerai pas sur les joueurs. Parce qu'à partir du moment quand tu leur as offert des salaires aussi énormes, il y a eu des négociations qui ont été faites. Si le club et les directeurs sportifs ont fait les idiots, pour moi, ça ne concerne pas les joueurs. Donc moi, quand je parle de l'offre, c'est uniquement de niveau de jeu et d'implication. Moi, ce qui me dérange au Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a plein de joueurs qu'on va chercher, soit pour leur aspect tactique, soit pour leur aspect footballistique, soit pour leur aspect mental. Et qu'une fois qu'ils arrivent au Paris Saint-Germain, ils arrivent dans leur confort et ils ne font plus rien. Herrera, quelle est la première chose qu'on a mis en avant lorsque Herrera arrive au Paris Saint-Germain? Il est plein de grinta, c'est un joueur incroyable, il fait les efforts, patati patata, patati patata. À aucun moment on a parlé de l'aspect footballistique. Très bien. Donc à partir du moment où moi on me dit on va chercher Herrera pour ses qualités mentales, ok, je ne vais pas m'attendre à ce qu'il fasse des passements de jambes, etc. Complètement d'accord. Mais où sont ses qualités mentales qu'il avait montré à United avant? Où sont ses qualités mentales? Il arrive au Paris Saint-Germain, il n'a plus aucune qualité mentale. Gueye, on va le chercher car Gueye était un joueur qui allait récupérer les ballons, qui allait grappiller un dalleux sur le terrain. On allait partir récupérer pour ça. Où est ce Gueye? On l'a vu qu'une seule fois. Allez, ça fait 4 ans qu'il est là, non? 3 ou 4 ans? On l'a vu qu'une seule fois, c'était contre Madrid. Yaouf! Tu vois? Yaouf! Tu vois, tellement c'est loin, je me rappelle même plus l'année. Je crois que c'était 2019, un truc comme ça, tu vois. Ça date de fou. Ça date de fou. Tu vois, je crois Ray, il joue encore au foot à ce moment-là. On va le chercher pour ça, pareil. Icardi, on est parti chercher pourquoi? Parce que dans la surface de réparation, c'est un joueur qui avait la dalle, qui était toujours bien placé, etc. Aujourd'hui, où est ce joueur-là? J'entends des mecs dire, ouais, mais Icardi, il revient avec 20 kilos en plus. Mais Icardi peut même revenir avec 30 kilos en plus
Oui,
à 30 kilos.
Bronskin.
Icardi, ah, merci Samir, ça fait plaisir. Icardi, il peut même revenir avec 60
francs. Ah, Samir, il donne 2 euros.
Mais il est malade, lui. Il dit, c'est Berchi, ça fait plaisir. Mais c'est une frappe en pleine lucarne. Elle est où, ton, il est où ton enthousiasme? Bordel de merde. Merci, Samir. Merci, Samir.
Comme toi?
Mon mari, tu laisses parler les autres.
Attends, je finis, je vous ai laissé parler. Attends,
t'es le présentateur, mince.
T'as parlé trois fois plus que moi.
Non, pas du tout. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Je sais même plus, je parlais de qui. Bref,
le là, et ensuite de ça.
Donc, ces mecs-là, pour moi, c'est tout à fait normal de les mettre dans un loft à partir du moment où les choses pour lesquelles tu es payé, tu ne les fais plus. On ne parle même pas de salaire, on parle juste de football. Et sur le terrain, vous ne faites plus rien, les mecs.
Bah oui, mais arrêter. Tu parles d'Herrera, quand tu compares à Gay qui lui a fait une faute pro dans son entrée à Madrid, qui lui a fait plusieurs, c'est-à-dire un problème comportemental en plus d'un problème de terrain, alors qu'Herrera pour moi est un remplaçant beaucoup plus fiable d'ailleurs que Gay. Faut voir où est leur limite. En plus, Gay, il était potentiellement vendable avant qu'il vienne au Japon. Herrera ne l'est pas, on sait très bien qu'il va rester. On sait très bien Herrera. Gay, il y avait une petite chance.
Gay, c'était une masterclass. Gay, il y avait une offre de Galatasaray de 5 millions.
Je tiens à signaler qu'il y a des buts sur les autres pelouses de Ligue 1. Alors, ça partait du côté droit, ça a centré, et c'est une tête qui trompe les gardiens contre pied. Merci, Plan. Merci, Plan, à l'équipe Pierre Sanchez pour mercredi à voir. Merci beaucoup. Merci à tous.
C'est le mec, c'est le monsieur multiplex, Nick.
J'avais plusieurs fois que Frances il a annoncé pour le jour même et pour mercredi. On va voir, a priori, ça va se faire. Ça fait trop longtemps
qu'on tourne. Quand l'équipe annonce un jour.
Mais pour en revenir sur Herrera, Gay, il y avait une offre de Galatasaray de 5 millions et Gay n'avait pas dit qu'il allait la refuser. Une fois que Gay se retrouve au Japon et qu'ensuite de ça, il fait un premier match, il dit qu'il la refuse. Ensuite de ça, tout le monde tombe sur Herrera. La différence de qualité entre Herrera et Gay, excuse-moi, si vous arrivez à la voir, au moins, moi, je trouve que Herrera, il déséquilibre pas le bloc. Alors après, ses passes sont pas toujours bien assurées. Les intentions peuvent être bonnes, mais c'est pas toujours bien réalisé. Mais je le trouve pas infiniment inférieur à Gay, loin de là. Et en plus de ça, si tu remplaces par rapport à ceux que tu as en poste, si t'en remplaces un par Ganagay, tu déséquilibres complètement ton équipe, alors que si tu remplaces par rapport à Herrera, tu perds en qualité, mais tu restes dans la cohérence. Donc moi, j'arrive pas à comprendre cette cohérence. La manière avec laquelle le loft a été construit, je la comprends pas, tout simplement. Je comprends pas l'intentionnalité. J'ai l'impression qu'il y a cette crise d'autorité qu'on a vue, et que tout à coup, elle a été appliquée à un peu à deux échelles. Et c'est bête, parce que si tu envoies des signaux comme ça, après, comment est-ce que tu vas traduire ton autorité au quotidien? Tout à coup, ça va devenir un peu plus compliqué. On va voir comment ça va évoluer, tout ça.
Il y a juste une réaction d'Eric qui nous dit « Moukielé, 5 ans quand même. A priori, Renato, ce sera aussi 5 ans. » Ça, c'est des choses aussi. On a fait des erreurs par le passé de donner des trop longs contrats à des joueurs dont on n'est pas sûr. Moukielé, notamment au niveau comportemental. 5 ans, ça me paraît beaucoup. J'ai toujours peur des longs contrats à Paris. Moi, je suis plus pour des moyens termes sur 3 ans. 5 ans, ça me fait un peu flipper. Mais bon, on verra.
Ouais, c'est normal ce que je disais. Les gars, ils arrivent chez toi et puis après, ils tombent dans un trou, ils n'arrivent plus à jouer au football, ça y est. Ça y est. Et puis, pour revenir pour ce que je disais sur Icardi, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais Icardi revient avec 20 kilos en trop. » Icardi, c'est pas le mec à qui on demande de faire des sprints. Hein. Donc, il peut même revenir avec 70 kilos en trop. C'est pas son style de jeu. Hein. Faut arrêter, les gars. C'est n'importe quoi, ça. C'est juste, il est mauvais parce qu'il a décidé d'être mauvais. Ça n'a rien à voir avec son poids. Il est mauvais parce qu'il a décidé d'être mauvais. Il est même plus bien placé dans la surface de réparation. Alors que ça faisait sa force.
Allez, passons à la suite du projet Campos.
Ouais, c'est incroyable. Et ouais,
après, pour Moukielé, juste pour rebondir là-dessus, il y a tout ce procès en intention, ce qui est fait sur ses tweets et autres. Le mec, a priori, a fait tout ça quand il avait 16 ans.
Bah oui, non, mais là, on parle de son comportement en Allemagne.
Bien sûr, ouais, non, mais son comportement aujourd'hui, justement, il n'y a pas tant de trucs que ça.
Si, quoi, si c'est le correspondant allemand dans l'équipe du soir, il y a 3-4 jours, le correspondant allemand disait qu'à Leipzig, ils ont noté des problèmes comportementaux de Moukielé.
Attention,
je crois qu'il y a une
parce qu'il y a,
de
y a une percée, il y a une percée qui une est partie de des 50 là. Mètres. Trois joueurs éliminés, une passe.
Icardi
c'est passe à passe au gardien. Merci Cauchemar Matteo. Il n'y a que Florian et Samir, je suis là aussi. Enfin, il n'y a pas que Florian et Samir. Ben oui, il y a Matteo aussi. Merci à toi, Matteo.
Merci.
C'est vraiment malade. Bref, et du coup, vous avez d'autres choses à rajouter sur le loft ou
non.
Pour vous, ouais, et puis même, je pense qu'on est un peu tous d'accord avec eux. Je pense que le loft, il est très, très mal construit. À un moment, À un moment, il n'y a aucune cohérence. Il y a des mecs qui sont là, qui ne sont plus là, d'autres qui partent là-bas, mais quand ils vont revenir, ils seront dans un loft. On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Il faudrait qu'on nous dise quels sont les joueurs qui sont indésirables et quels sont les joueurs qui ne le sont pas. Ensuite, du coup, le prochain sujet, c'est les règles de vie avec Galtier. Je sais qu'on nous parle souvent de chartes que les joueurs ont signées, d'interdiction de téléphone à table. Mais on a des vidéos qui sortent sur les réseaux, donc on ne sait plus trop. Qu'est-ce que tu en penses, Drias?
En soi, ça va peut-être un petit peu loin, mais c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que ça va être tenable sur la durée? C'est toute la problématique. On a vu à chaque fois les entraîneurs qui arrivaient avec leur stratégie pour séduire les joueurs et qui arrivaient plus ou moins pendant 6 mois. Et est-ce qu'ils arrivaient sur la durée? Moi, en soi, le fait que les joueurs, c'est un métier particulier. C'est un métier où il faut que pas forcément que tu t'entendes bien avec tes voisins, mais que tu sois capable de communiquer avec eux. Et a priori, c'est vrai que si tu arrives à communiquer dans la vie, bah, tu arriveras un peu plus facilement à communiquer sur le terrain. Donc, pourquoi pas le faire? Mais trop tôt pour se faire un avis sur la question. On sait juste que Neymar est devenu le joueur le plus sérieux de la Terre, qu'il arrive toujours 5 minutes avant. Très bien lui en prend, très bien lui en fait. Peut-être qu'il même il est en train de se remettre en cause. J'ai vu des évolutions dans son jeu, donc on verra. Maintenant, est-ce que ça va tenir sur la durée? C'est ça pour moi la vraie question.
Moi, je trouve. Vas-y, Alexandre, pardon.
Ah, excuse-moi, Bosto.
Non, Alexandre, vas-y, c'est bon. Vas-y.
Moi, je trouve que c'est important de mettre des règles au sein d'une entreprise, parce que les clubs de foot sont une entreprise et que sans règles, il n'y a pas j'ai pas les termes, mais vous allez me comprendre. Donc non, je pense que c'est important de mettre des règles, et parce que il faut que tout le monde marche ensemble. Voilà, après voilà, faut pas rentrer non plus dans la dictature, l'interdiction de portable quand on mange ou quoi que ce soit. C'est pas, on demande pas que ça, mais voilà, il faut imposer des règles. Je pense que les joueurs ont l'air de comprendre et apprécier, mais voilà, c'est le début de saison, c'est comme tout, et comme Pep Guardiola a dit un jour au début lors de la pré-saison, tout le monde aime tout le monde, le coach, c'est le meilleur coach du monde. Mais à partir du premier match, une heure avant, donc dès qu'on donne la compo, on devient les remplaçants détestent le coach, on devient le pire coach du monde. Donc là, c'est vrai qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Je pense qu'on pourra juger dans la durée. Mais moi, le fait que le PSG mette des règles en place, je trouve ça très bien, et j'espère que ça va continuer et que les joueurs vont marcher dans le même sens, main dans la main, quoi. Qu'ils ont enfin compris que le PSG n'est plus un club med et que c'est devenu une vraie entreprise. Sérieux et avec une grosse organisation.
Qu'on mette des règles en place, et je pense que Campos va le faire, c'est très bien. Maintenant, je trouve qu'il y a un côté un peu ridicule du club et de son storytelling là-dessus, avec la complicité des médias, je pense. Ils en font des tonnes.
Oula.
C'est moi qui vole.
Ouais.
Non, c'est bon. Non, c'est bon. Du coup, je trouve qu'il y a. Voilà, c'est trop. Puis à côté de ça, forcément, tu dis le même jour où tu dis qu'il ne va pas y avoir de téléphone à table, tu vois Neymar qui filme Kalimundo manger des raviolis. Donc forcément, tu as un côté un peu ridicule là-dessus. Voilà, qu'on parle un peu du jeu, etc. Là, c'est vrai qu'on est un peu trop sur le côté discipline vendu par le club. Et je trouve que c'est too much.
Ça, ce qui me fait rire, c'est des règles toutes simples. Arriver à l'heure à l'entraînement, ça me paraît lunaire, quoi. C'est des trucs qui sont assez simples. Donc, tu n'as pas besoin de faire des caisses. Et c'est vrai que, autant ça, je trouve que c'est important de mettre ce genre de règles-là, de venir à l'entraînement, manger ensemble. Voilà, pour avoir une cohésion d'équipe, c'est important. Maintenant, histoire du portable à table ou quoi. Bon, voilà, c'est vrai que bon, quand on mange, je pense que les joueurs n'utilisent pas leur portable. Mais une fois que tu as fini de manger, tu peux prendre ton portable, filmer tes potes ou quoi. Pour moi, ça, c'est du ridicule. Et je te rejoins, Bateau, dans le sens où les médias en font trop. Et je pense qu'ils exagèrent aussi un peu la chose. C'est juste pour vraiment se montrer ce nouveau PSG, la révolution PSG, et parce qu'il faut sortir des articles, et tout simplement. Mais je pense que les règles ne sont pas aussi strictes. Enfin, je pense pas. Même si connaissant Campos, c'est un peu le vieux père portugais, le vieux grand-père portugais, un peu strict et un peu relou sur les bords. Je pense pas que ça aille jusqu'à là.
Barry, toi qui es dans la com.
moi, je suis. Ouh là là, je vois une. Waouh! Reprise de volée de Samir.
Retournée de Dinaï Dimbé.
Pleine lucarne. Merci likes. Samir.
À 200 likes ou pour 100 euros, au choix.
Non,
à 200 likes, je rigole.
Alors, moi je suis d'accord avec Basto. Au début, je trouvais que la communication était très très bonne. c'est très très bien. Alors oui, il y a des règles, c'est parfait, là, là, ils vont être plus disciplinés. Là, ça commence à devenir très théâtral. C'est bon. Toutes les 2 secondes, à chaque fois qu'on a une sortie médiatique de Galtier ou d'une autre personne de son staff, c'est la rigueur, regardez, on met des règles, on fait ses décharges. C'est bon, les gars, on a compris, il faut arrêter. Les mecs, ils ont 30 ans, c'est plus des gamins, il faut arrêter. Donc, ok, c'est bien beau de leur faire signer des chartes, mais là, j'ai l'impression qu'on vire uniquement dans de la com et j'ai l'impression que c'est plus très logique.
Barry, c'est un chat.
Du coup, avant d'amorcer le dernier sujet, on est 200 dans le live et il n'y a que 70 likes, je suis pas d'accord. J'ai dit, je veux 150 likes. Donc vous allez me mettre 150 likes là, tout de suite là. Vous allez tous liker le live là. Allez les gars, force à vous. Ça nous fait plaisir et ça nous aide.
Il y a un com qui dit que Galtier, j'espère qu'il fera pas pote avec des joueurs. Il y a un truc qui m'a gêné dans Galtier, c'est qu'il a dit, à un moment il a fait une chose en disant non, je ne suis pas là pour être avec mon groupe, en gros les... Entre, je vais être vulgaire, les sucer, je ne sais plus exactement le mot qu'il disait. Puis derrière, il fait que ça et il dit « Mais le groupe est formidable, ils sont tous bien, ils sont tous beaux, ils sont tous gentils. » C'était dans l'interview, dans l'équipe, je crois. Je trouve qu'il surjoue aussi.
Oui, mais est-ce que tu as le choix, en fait?
Non, dans ce côté calinothérapie, tourelle.
Laisse-moi finir, Basso. Est-ce que quand tu arrives dans un club qui est le Paris Saint-Germain, qui est scruté par tous les médias, est-ce que tu n'es pas obligé, au bout d'un moment, de jouer un rôle tout simplement pour survivre? Laisse-moi finir. Je vous trouve un chouïa sévère pour le coup. Voilà, pour l'instant, c'est clairement il a défendu ça. Et au niveau du jeu, c'est vrai que ça en parle pas des masses. Mais moi, ce que je vois, c'est que sur le terrain, par contre, du jeu, on commence à en voir. Il y a des trucs qui commencent à apparaître, des trucs qui sont satisfaisants. Donc, si on arrive à cet équilibre, où au niveau com, on a un rôle qui est donné, et puis que le groupe arrive à fonctionner dans ce cadre-là, et que sur le terrain, on voit du jeu, moi, ça me va très bien. Tu vois, c'est effectivement, bien sûr, ce serait génial d'avoir Guardiola qui, ou non, même mieux Bielsa qui vient avec son tableau, parce que machin, il y a le truc, et qui te fait la database de tous les joueurs de Ligue 1 pour t'expliquer pourquoi il a fait ces mouvements-là. Ça serait formidable. Et on serait tous amoureux de lui, mais tant qu'il tient son rôle, etc., père fouettard, mais en même temps un peu gentil, etc., et essayer de trouver un équilibre entre les deux au niveau de la com, et que c'est ça qui nous est renvoyé, et que sur le terrain, ça va, moi, ça me va. Moi, mon inquiétude, et c'est plus sur un peu ce que tu disais sur le bah, « parfois, c'était un peu gentil », c'est un espèce de truc d'équilibre, et si jamais il n'arrive pas à tenir, qu'est-ce qu'il restera de l'autorité à ce moment-là? Mais mon attitude, elle ne va pas plus loin que ça, quoi.
Juste pour te répondre, j'ai été de ceux qui ont défendu la com. Au début, je trouvais ça très bien. Maintenant, je trouve que c'est trop théâtral. Là, ça devient trop. Et on sent que c'est clairement de la com, que c'est plus une volonté de faire comprendre certaines choses aux gens qui écoutent, aux supporters, aux journalistes, etc. Là, on sent clairement que c'est du « oui, on fait ci, oui, on fait ça, oui, on fait ci, oui, on fait ça ». Et à force, bah, en fait, au final, le propos devient biaisé parce que c'est ridicule. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, il faut savoir doser. Il faut savoir doser. Sachant que moi, j'étais le premier à dire que la com était très, très bonne. Mais un peu de dose, arrêtez de toujours sortir des infos comme ça parce qu'on sait que les infos sortent du club. Donc, on signe une charte, interdiction du téléphone, interdiction de ci, interdiction de ça. Bientôt, ça va nous dire quoi? Que les joueurs n'ont plus le droit de parler entre eux à l'entraînement? Ça devient théâtral. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça ce que je dis.
Moi, ce que tu veux dire. Après, voilà. Après, tu fais avec les questions qui sont posées et avec ce que tu pressions. Que les journalistes attendent. Mais bon, après,
c'est ça. Ok, bah du coup,
qu'est-ce qui se passe? Oh, le passement de jambe, double crochet. Oh, la frappe enroulée qui termine en pleine lucarne. Mais c'est qui? C'est qui ce nouveau joueur? Oh, un nouveau joueur dans le building. Anderson Doula qui nous pose une question.
On y a répondu hier. La réponse était plutôt non.
Je pense que ça reste non. Je pense que c'est
non à cause du sans ballon.
On est d'accord qu'on peut pas aligner Messi et Neymar.
C'est non à cause du sans ballon et c'est maintenant à cause du.
Je crois que je vais rester parce qu'il y a des réponses, parce qu'il y a des contre-attaques.
Un but à l'engagement.
Et voilà, un but à l'engagement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci à toi, Florent, comme d'habitude. Merci à toi.
Ok. Là, on va amorcer un sujet. Je pense que là, c'est un sujet que vous attendez tous, hein. Un sujet qu'on aime tous. C'est le sujet élite, le projet élite avec les jeunes. Donc, Drias, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce que tu penses que c'est uniquement de la com? T'en penses quoi?
Ben, je pense que c'est, tu vois, spontanément, j'ai envie de te dire formidable et j'ai envie de te dire essentiel et j'ai envie de te dire tous ces mots-là. Maintenant, on va voir si c'est suivi des faits parce que là, comme au niveau des jeunes, on a l'habitude d'aller au Paris Saint-Germain. Là, on a un jeune en plus qui montre qu'il est prêt pour avoir un minimum de temps de jeu, pas être mis dans la rotation parce qu'il ne s'agit pas de. Ben, j'entends des gens qui veulent voir Zaïre Emery directement parachuté en troisième homme du milieu. C'est un jeune. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut qu'il se rende compte de ce que c'est le pressing quand tu vas débarquer dans un stade qui sera plein avec les supporters qui chantent, que les attentes vont commencer à être élevées, que si jamais tu perds tes 3 points, bah, la pression, elle va monter sérieusement d'un cran, etc., etc. Faut le faire y aller petit à petit. C'est du 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et s'il répond bien aux 10 minutes, à ce moment-là, augmenter. Mais oui, il est plus que temps qu'on intègre des jeunes. D'autant plus qu'on en a un qui semble être prêt, qui est Zaïre Emery. Donc, il faut lui donner du temps de jeu et voir ce qu'il vaut.
Notre spécialiste de la jeunesse portugaise, Alexandre, t'en penses quoi?
Bah, j'en pense que du bien. Benfica l'a mis en place il y a quelques années, un projet élite avec les meilleurs jeunes de chaque génération. On voit que le Seychelles fait partie des meilleurs centres de formation du monde. Donc, je pense que c'est une bonne idée qu'il faut mettre en place ce projet élite. Je ne sais pas s'il a encore été mis en place ou ça va avoir lieu à la rentrée de la tournée au Japon. Mais c'est une bonne idée. Il faut, voilà, on sait à quel point la région parisienne et l'Île-de-France est gorgée de talents. Il faut faire confiance à nos talents de la région parisienne. Et notre salut passe par là aussi, par la formation. Et ça me semble indispensable qu'on aille dans ce sens-là.
Le meilleur pour la fin. Basto, t'en penses quoi?
Toujours, toujours. De soi, le groupe élite, c'est une bonne idée. Évidemment, en France, des clubs comme Lyon, on le met en place. Donc, c'est des clubs qui performent avec leurs jeunes. Maintenant, à Paris, on ne nous a pas expliqué exactement comment ils seraient mis en place. C'est vrai qu'on est un peu dans le flou. Et dans ces premières jeunes mis en tournée au Japon, c'est vrai qu'on va prendre un Icardi, pas un Gassama. T'as pas Théo Baldé, j'en parlais tout à l'heure. Donc, je ne comprends pas exactement qui sera dans ce fameux groupe élite, comment ça se passera. J'ai un peu des doutes, tu vois, si par exemple là on veut déjà sacrifier Kalimuendo, si on venait acheter un autre attaquant, c'est un peu aussi une incohérence entre on veut faire jouer les jeunes et en même temps c'est eux qui sont débarrassés en premier dans le projet, quoi.
Je tiens juste à dire un truc, si jamais vous entendez Basto dire un truc positif, a priori vous êtes en train de rêver, donc réveillez.
Bah écoute, c'est bizarre parce qu'aujourd'hui je suis complètement d'accord avec Basto aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Ouais, je suis d'accord avec lui, moi j'ai envie d'avoir plus de précision sur ce projet élite parce qu'on nous a balancé ça, on nous a dit que ça allait être des jeunes, des super jeunes, on va dire entre guillemets. J'aimerais bien savoir comment ils vont être mis en place et comment ces jeunes-là vont faire la passerelle entre les jeunes et le groupe pro. Mais en soi, oui, c'est une très très bonne idée. Tu as parlé d'exemple de Warren, Zaïre Emery, mais tu as plein de jeunes comme Gassama et d'autres jeunes encore. Sur le cas Kalimuendo, par contre, je ne suis pas forcément d'accord avec Basto parce que. Kalimuendo, c'est aussi, bah, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à la masse salariale, etc., de vouloir faire entrer des sous. Si tes indésirables ne veulent pas partir, l'argent, tu vas aller chercher autre part. Et Kalimuendo a une valeur marchande sur le marché, donc il pourrait être sacrifié comme à l'époque, Dengoku, etc.
Non, ce que je disais, Barry, c'est juste si tu vends Kalimuendo pour reprendre un autre attaquant avec le même prix de vente.
Ouais, c'est vrai que c'est. Après, c'est pas le même profil, c'est ça. Ça va pas être le même profil. Après, oui, sur le papier, sur le projet Elite, pour rester uniquement sur le projet Elite. J'aimerais bien avoir plus de précision et je trouve que c'est une excellente idée de pouvoir laisser nos jeunes, c'est pas dire à la baguette, mais pouvoir avoir une meilleure passerelle dans le club de leur ville. Comme le disait Alexandre, on a un vivier de talent énorme. L'un des sujets qui…
Vas-y, je t'écoute. C'est le club que tu disais qui avait mis en place le projet élite, Alex, c'est lequel?
C'est Benfica.
Et Benfica, ils ont une équipe B, puis ils ont des équipes jeunes.
Oh, Benfica, ils ont I19, ils ont une équipe
B. Ils ont Benfica B.
C'est ça.
Et voilà. Et Paris Saint-Germain, bah, tu as Paris Saint-Germain, puis après, tu as eu 19, eu 17, mais tu n'as pas PSGB, quoi. C'est ça toute la problématique de ce club élite. C'est tu arrives à imaginer comment elle est mise en place à Benfica, mais comment est-ce qu'elle peut être mise en place à Paris si tu n'as pas, d'équipe B, justement?
Ça va au-delà du PSG, ça va au-delà, c'est la France. Oui. Moi, je ne comprends pas pourquoi les équipes B de clubs pro ne peuvent pas jouer en deuxième division. Moi, c'est un truc qui me dépasse. Non.
Ça va bien,
voilà, c'est moi. Bon, le Portugal a gagné 10 ans grâce à la mise en place des équipes B en deuxième division. Le Portugal a progressé, mais c'est le Portugal a vraiment progressé avec cette règle là. Les João Félix, les Rubén Dias, etc., ont progressé parce qu'ils ont pu jouer à 18-17 ans en deuxième division portugaise. Et moi, je comprends pas qu'en France on ne fasse pas ça.
Mais après, je pense que le Paris Saint-Germain, au-delà du fait d'avoir une équipe B. a la capacité d'aller chercher un club en Ligue 2 et lui dire, bah, on vous prête vos jeunes, etc. Moi, je prends un exemple. Bon, je sais que les gens me rappelleront l'histoire, il y a un clash entre les deux. Patate. Ok, d'accord. Mais on a une équipe qui s'appelle le Paris FC. Je suis désolé, mais le Paris Saint-Germain pourrait aller voir le Paris FC et leur dire, bah, écoutez, nous, on a beaucoup de jeunes qui viennent de notre région commune et qui sont très, très forts. On pourrait vous les prêter pour que vous puissiez les acquérir, etc. Faire un échange de bons procédés comme ça avec le Paris FC, le Paris Saint-Germain a la capacité de le faire, mais le Paris Saint-Germain ne le fait pas. Donc, c'est aussi notre faute, aussi, quelque part, tu vois, d'avoir énormément de jeunes qui dorment au club et sur le banc. Enfin, bref. Le dernier sujet, c'était sur le bling-bling. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est passé d'un projet bling-bling avec tous les grands noms qu'on a eus à l'époque, les grands Cavani, les Neymar, les Mbappé, les Ibra, etc., un projet peut-être un peu moins bling-bling, plus Europa League, avec des Renato Sanchez, avec des Vitinha, avec d'autres pistes qu'on a. T'en penses quoi, Drias ?
Bah, le truc chelou, si tu veux, c'est que t'as jamais été aussi bling-bling que si tu regardes le 11 à l'heure actuelle. T'es quand même dans un club où il y a Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Le ballon d'or wannabe depuis longtemps, le mec qui a le plus de ballons d'or et le mec qui est promis à tous les ballons d'or. T'as juste ça dans ton effectif. Et à côté de ça, tu fais un recrutement Europa League. Donc les deux ensemble, ça fait un peu bizarre. Après, en soi, ben, il y a peut-être un problème de définition. Tu vois, est-ce que Paris peut être un projet Dortmund? Je pense pas. Paris a toujours eu ce rapport où il y avait toujours un peu une star qui était au milieu, même si c'était un peu de la boue autour. Faut appeler ça un chat, il y a toujours eu ce rapport-là. Il y a toujours eu un rapport dépensier, etc., etc. Et sur le moyen terme, j'ai du mal à y croire. Après, qu'on complète notre équipe de manière intelligente, et plutôt que, tu vois, projet Europa League, je ne sais pas, mais qu'on complète notre équipe de manière intelligente avec quelques stars pour rester dans la philosophie parisienne, là, oui, carrément. Et qu'on arrête justement d'acheter des stars et ensuite de ça, de faire des panic buys pour essayer de compléter des trucs à la va-vite et arriver à une bouillabaisse qui ressemble à rien, là, carrément. Maintenant, si c'est pour devenir le projet Dortmund, c'est renier notre identité, et là, j'y crois. C'est même pas que j'ai envie ou pas envie, c'est juste j'y crois pas, quoi.
Après, les gars, il y a quand même un écart entre un projet bling-bling et un recrutement Europa League. Il y a quand même un sacré écart où, bah, pour moi, c'est pas forcément bling-bling ou Europa League. Tu peux être entre les deux, et je pense qu'on se situe là. Pour moi, faire un Ekitike, Vitinha, Renato Sanchez et Skriniar, c'est pas du tout un recrutement Europa League. Enfin, c'est un recrutement qui sont basés sur nos besoins et pas forcément sur du bling-bling. Enfin, pour moi, il y a vraiment un écart entre bling-bling et Europa League. Et c'est là où on se situe, c'est-à-dire que, bah, on se situe nos besoins, on regarde les joueurs qui peuvent nous remplir nos besoins, et en fonction de ça, on établit des plans A, des plans B, des plans C, et au final, on voit que, bah, pour l'instant, bah, Vitinha, c'était notre plan A, et Kitike, c'était notre plan A, et je pense pas que ce soit un recrutement Europa League, loin de là. Hein.
Waouh.
Oui.
Quelle frappe merveilleuse du milieu de terrain, elle est incroyable.
On sera là, en réaction d'après-match. On sera là.
Félicitations, quelle frappe d'Anderson.
Il y a des lives d'après-match. Alors oui, il y a une différence évidemment, parce que maintenant je vois des gens aussi sur certains forums, certains sites qui disent ils vont nous dire il faut du Fofana, faut du machin, faut plus de stars, fini les stars. Et eux, ils sont aussi dans, ils comprennent pas qu'il y a une différence, comme tu l'as dit Alex, entre recruter des Neymar, des Messi et recruter des Nuno Mendes, des Vitinha. Il y a un entre deux qui existe, quoi. Des Vitinha, Nuno Mendes, c'est pas bling bling forcément, mais c'est pas non plus Europa League, loin de là.
Voilà,
après, sur les profils Ekitike, Mukiele, après, ça, c'est plus un avis personnel sur ce qu'on fait cette saison, parce que c'est peut-être compliqué de changer le 11, ce sera plus facile l'année prochaine quand Messi, etc. partiront, mais c'est plus de la déco qui est refaite que la fondation. Et c'est plus ça qui me gêne, mais voilà, après. Oui, Drayas, toi.
Je voulais juste réagir à un petit com qui est passé. La bouillabaisse, c'est très bon où que tu la manges, et à Paris, elle est délicieuse notamment.
Bon. Patrick Chic, alors, Gavroche. Ah, c'est Patrick Chic. Ouais.
C'est pas.
Déjà, je voulais. C'est un bon joueur, hein, mais.
Oui, mais c'est pas. C'est pas forcément un attaquant de soutien.
Ah si, je suis très bon de la tête, très bon remise, alors, très bon finisseur, genre de surface. Alors,
déjà, je voulais remercier Anderson pour le commentaire, ça fait plaisir. Alors, on va tâcher de continuer à faire notre travail, ça fait énormément plaisir. Et pour répondre au sujet, moi je vois le problème à l'envers. Je pense que le bling-bling, c'est le Paris Saint-Germain qui le crée. N'importe quel joueur qu'on ira chercher, on nous dira, oui, mais les bling-bling. Là, on va chercher Renato Sanchez. Je pense que si on prend Renato Sanchez, dans 2 mois, tu entends que Renato Sanchez est une star. lorsqu'on va chercher Kylian Mbappé n'est pas une star, on en fait une star, tu vois. Et ça, et c'est sur plein de joueurs que ça arrive. On va chercher Donnarumma, on nous dit que Donnarumma est une star. J'ai jamais vu que Donnarumma était une star, tu vois. Mmh. Alors oui, tu as des stars, tu as Ramos, tu as les trois devant, tu as Verratti, oui, tu as des stars, on va pas se mentir. Mais est-ce que ce n'est pas le Paris Saint-Germain qui les crée, ces stars? Paredes, c'était personne avant d'arriver au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on parle de lui comme une star. Marquinhos, pour moi, c'est pas une star, mais on parle de lui comme une star. Kimpembe, on parle de lui comme une star. Je pense que c'est le Paris Saint-Germain qui les crée. Après, le projet Europa League.
Paredes, c'est considéré comme une star en dehors de
ah,
la
oui,
France.
Oui, pas... Ah oui, aujourd'hui, Paredes, les gens, quand ils en parlent, c'est. Enfin, peut-être pas comme une star, mais Paredes fait partie des noms qu'on nous cite quand on parle de Bling Bling. Paredes fait partie de ces noms-là. Tu vois, donc pour les gens, peut-être que le Paris Saint-Germain fait trop star. Et pour répondre au truc projet Europa League, non, je pense pas. À un moment, le Paris Saint-Germain a moins de moyens, ils vont recruter malin. Alors, est-ce une mauvaise chose? Je pense pas. Si demain tu vas chercher un joueur à 12 millions et il s'avère être le meilleur milieu du monde, est-ce que tu as fait une erreur? Non, recruter malin ne veut pas dire forcément faire un projet Europa League. Je peux citer plein d'équipes qui vont recruter malin et qui font de belles choses. Tu regardes en 2019, pardon, l'Ajax, ils avaient des recrutements à moyen coût. Ils l'ont fait. Leicester avec l'APL. Donc non, je ne pense pas que ça veut forcément dire que c'est un projet Europa League.
Mais le truc, c'est en fait, si tu veux, c'est que tu ne seras jamais l'Ajax, Barry. C'est déjà en soi. Tu n'as pas le regard extérieur que l'Ajax peut avoir. Tu vois, par exemple, même comme un club comme City, il n'a pas le regard qu'un Paris peut avoir. Si tu veux comparer, tu vas comparer avec des clubs où, enfin, je sais pas, tu peux pas avoir ce genre de logique vraiment. T'es obligé d'avoir justement le côté star. Peut-être qu'un jour on pourrait être le Bayern Munich, mais même ça, j'y crois pas.
Okay.
Voilà, c'est ça. Mais au-delà de ça, ça ouvre un débat. Est-ce que Campos est vraiment compatible avec le Paris Saint-Germain? De toute façon, on peut pas y répondre tout de suite, mais c'est peut-être une question qui est ouverte pour l'avenir ou quelque chose qui sera à vérifier. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça, Paris restera Paris aux yeux de tout le monde? Est-ce que ça créera pas des conflits? On verra. Mais tu deviens pas l'Ajax et Dortmund juste parce que tu le choisis. Tu es obligé de faire avec la culture du club et Basto, faut vraiment qu'il lâche son téléphone. Mais
sur mon téléphone, j'ai toujours regardé les commentaires à droite. Je compte sur les commentaires.
Tu peux pas faire abstraction complètement de la culture du club dans laquelle tu crées. Et d'ailleurs, Campos, c'est une des premières choses qu'il dit et qu'il fait à chaque fois. Et c'est pour ça que la question est-ce que Campos sera compatible, peut-être elle sera fausse. Mais c'est qu'il dit on prend la culture du club, on analyse la culture du club. Et je pense que là, c'est vraiment circonstanciel. On est vraiment dans une situation au niveau de l'effectif qui est cacophonique. On a je sais pas combien de joueurs qui ont plus le niveau pour jouer. On a je sais pas combien de joueurs qui veulent plus jouer. On est dans une situation de transition qui est très étrange. De toute façon.
Oui, mais après, moi, je suis pas d'accord avec le terme Europa League parce que je trouve que le terme Europa League est assez réducteur. Le terme Europa League voudrait dire qu'elle est recrutée des joueurs moins chers que ce que tu as l'habitude d'aller acheter. C'est forcément une mauvaise chose. Moi, je prends un exemple tout bête, mais ça voudrait dire que lorsque Modric est recruté par le Real Madrid, c'est un recrutement Europa League. Ça voudrait dire que Modric est un recrutement Europa League et pourtant Modric est un Ballon d'Or. Est l'un des meilleurs milieux de l'histoire de ce football, vu qu'il a eu un ballon d'or. Est l'un des meilleurs milieux de l'histoire de ce football, qui a fait une finale de Coupe du Monde.
Non, mais bien sûr, Barry, il y a une différence. Tu vois, Modric était déjà le meilleur joueur de Tottenham. Là, quand tu prends, il y a quand même aussi une différence quand tu prends des joueurs qui sont moins suivis ou qui ont une demi-saison, ou etc. etc. Voilà.
Mais c'est pas une question en soi, c'est une question qui s'ouvre. Et après, je disais pas Europa League, tu vois, comme par exemple, quand je compare avec Dortmund, c'est pas un niveau Europa League, quoi.
Alors moi je vais donner un dernier exemple. Est-ce que le Tottenham que quitte Modric est meilleur que le Porto actuel?
Après, non mais t'es pas obligé d'aller aussi loin, Barry. Quand Ruben Dias quitte Benfica pour Manchester City, est-ce que les gens parlaient d'un recrutement Europa League?
Mais oui, mais déjà Manchester City n'est pas enfermé dans cette logique là. Manchester City c'est un cas particulier, c'est pas cette logique-là. Mais quand Ruben Dias arrive à Manchester City, tu me cites le 11. Alors après, pour le coup, là, tu vas trouver que des joueurs qui sont tous devenus des méga stars par Manchester City. Mais si tu me cites le 11, au moment où Ruben Dias arrive, t'as que des méga stars. C'est une chose que de ramener un joueur comme ça, mais c'en est une autre de rentrer dans un projet où tu n'es que dans la logique de ramener des joueurs de ce genre. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas forcément un contre-joueur. Mais moi, après, on va se perdre parce que c'est juste la c'est juste se questionner sur qu'est-ce qu'est la philosophie du PSG. Et là-dessus, on a peut-être des avis différents, des visions différentes, des lectures différentes. Oui, et on finit par trouver en rond.
Moi, je pense que la vision du PSG, c'est d'acheter des joueurs, pas forcément qui sont des stars maintenant, mais des stars qui seront en devenir. Mais les meilleurs de ce championnat, c'est-à-dire le cas Vitinha est le meilleur exemple, du sens où Vitinha n'est pas non plus un prospect, parce qu'il a déjà fait, il a montré ses preuves dans le championnat portugais pendant un an, mais il n'est pas non plus à son prime, on va dire, même si j'aime pas ce mot-là, mais il risque de le devenir avec nous. Et je pense que c'est ça le projet Campos, c'est d'acheter des jeunes prospects, mais qui sont déjà des références dans leur championnat, pour ensuite progresser.
Ouais, mais quand tu promos Kieler Renato, c'est ni un prospect, ni un mec qui va être titulaire.
Oui. Tu vois. Pareil avec
moi, que... Mais tu peux pas avoir, comment dire, tu peux pas avoir 23 joueurs.
Non, c'est évident.
Tu vois, tu es obligé de compléter un peu l'effectif. Et moi, si demain on complète l'effectif avec des Mukiele ou des Renato, moi perso, je ne serais pas déçu parce que ça reste quand même des bons joueurs. Renato, quand il est en pleine forme.
C'est évident, mais tu vois, si tu fais que des prospects et des Vitinha, Renato, et derrière, tu n'as pas de valeur sûre. Bon, Skriniar arrivera peut-être, mais on parle d'un point de vue comme ça. Si on faisait que des recrues comme ça et que tu n'as pas derrière la valeur sûre qu'il faut, il y a quand même un manque. Et là, tu te retrouves dans un effectif un peu trop de bas niveau.
Mais je pense que non, parce que
c'est vrai que ouais, c'est une chose qu'on a fait les dernières années aussi.
Je finis, Barry. Si tu regardes bien les projets Campos, en fait, ils te recrutent à chaque fois soit une colonne vertébrale avec des joueurs qui ont de l'expérience et qui sont forts, Ricardo Carvalho, Abidal, Ali Litfé-Fonte, Bourak. Et en fait, après, à côté de cette colonne vertébrale, ils t'achètent des prospects, des cracks. Et en fait, voilà, c'est vraiment un mélange de tout ça. Ils appellent ça le puzzle, c'est-à-dire qu'il voilà, va faire une colonne vertébrale avec des joueurs d'expérience. Et ensuite, à côté de ça, il va te rajouter peut-être des prospects, des cracks. Et ça fait un mélange qu'il a réussi à Monaco à Lille. Le PSG, c'est totalement différent, ça, je le conçois. Mais je ne pense pas qu'on fera un mercato qu'avec des cracks, qu'avec des joueurs de seconde zone. Je pense que vraiment, voilà, si on fait Skriniar, Vitinha, Ekitike et Renato, bon, on fait un peu un mélange des deux. Et je pense qu'à la fin du mercato, on sera tous plus ou moins contents.
D'accord, mais alors, mais je dis juste ça. Dans ce cas-là, tu vois, tu mets Skriniar dans le mix. Mais si tu ne mets pas Skriniar dans le mix, le truc, tu vois, c'est que si tu constitues un effectif, mettons qu'avec des très bons, par exemple, au Portugal, etc., etc., et que tu espères en septembre, octobre, d'être tout de suite performante en Ligue des Champions, en sachant que quand tu débarques avec un point qui est vraiment. Ah, c'est
Eve.
Et la frappe de Eve en pleine lucarne. Quel but!
Mais si tu veux, tu vois, le truc, c'est quand tu débarques en Ligue des Champions et que tu es Paris Saint-Germain, le regard qui est porté sur toi n'est pas le même que celui qui est porté sur un Ajax, etc., etc. C'est-à-dire que, en soi, tu te prends un match nul à la première journée en tant que PSG, le poids que tu as à payer de ce match-là et de cette contre-performance-là n'est pas du tout le même que si tu es l'Ajax. Et c'est pour ça que, mine de rien, on a besoin de certitude. Et pour l'instant, en fait, si tu regardes le projet depuis QSI, tu as aligné tout début du projet, mais tu as aligné des certitudes sur les offensifs. Tu les as alignés. Et mine de rien, sur le milieu, ben, tu n'en as jamais mis. Sur les décès, tu les as enlevés les uns après les autres, etc., etc. Et là, tout, en fait, ce qu'on demande, c'est aussi un peu de certitude sur les autres lignes. Alors, encore une fois, tu nous dis, on ramène Skriniar, et là, je te rejoins sans problème. Mais tu mets Skriniar dans le mix, il y a quand même un bug.
Oui, en fait, le mercato sera vraiment jugé s'il y a Skriniar ou s'il n'y a pas Skriniar. Ça, je vous.
On est d'accord.
Et il reste un mois et personnellement, je ne suis pas inquiet. Après, je peux me tromper totalement. Peut-être que j'aime beaucoup trop Campos et que je ne suis pas objectif. Mais pour l'instant, je ne suis vraiment pas inquiet parce que pour moi, il fera venir des joueurs confirmés encore au sein du Paris Saint-Germain.
C'est la famille Portugal.
Voilà.
Merci à Eve. Franchement, ça fait très plaisir les commentaires comme ça. Ça fait très
plaisir. 100 likes. On n'est pas loin des 130.
Et juste pour revenir à ce que disait Drias, je pense que le mercato est aussi à l'image de nos finances. Pour revenir, tu vois, on a plus de 200 millions à mettre à chaque mercato, etc. Donc forcément, c'est beaucoup plus renflant au niveau des noms.
On saura l'année prochaine quand on aura 30 à 35% de la masse salariale qui sera libérée par les départs de Navas, Messi, voire Ramos. Donc c'est sûr que ce sera différent. Non.
C'est sûr.
Juste, moi, je vais vous laisser. J'ai passé un bon moment, mais j'ai un coup de téléphone très important à passer. Les gars, j'avais dit 150 likes, on est à 101 likes. Les gars, s'il vous plaît, allez liker. Ça fait plaisir. Ça nous aide au référencement. On veut des likes, des likes, des likes. Je veux 150 likes.
Moi, je veux 199, comme ça, je raconte pas mon histoire du trottoir. 199.
Ok, 199. Donc, 199. On va sur 199 likes. Baston a dit 199 likes. Je veux 199 likes. Sinon, vous voyez les trois là? Ils ont plus de vie. Ils ne quittent pas ce live.
Et on a faim.
En tout cas, merci. Franchement, j'ai passé un bon moment. Je suis désolé. J'ai vraiment un coup de téléphone à passer très important. Merci à toute l'équipe et merci à ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et à la prochaine.
À la prochaine, Barry.
Ciao.
Bah, de retour parmi vous. Bah, écoutez, on va peut-être essayer d'aborder un petit dernier sujet. Est-ce que vous pensez que par rapport aux années précédentes avec Leonardo et Pochettino qui se tiraient dans les pattes H24, est-ce que là, vous pensez que le trio, entre guillemets, même si Nasser, il a pris un peu de recul, va pouvoir s'entendre et aller dans la même direction?
Bah, la base du sport d'un club, c'est la relation directeur sportif-entraîneur. On a l'air de l'avoir cette fois-ci. Ça me fait penser à la première saison Qatari avec, plutôt la deuxième, avec l'arrivée de Leonardo et Ancelotti. On avait un directeur sportif qui marchait avec son entraîneur. Là, c'est encore plus flagrant parce que c'est, pour une fois, voilà, c'est le directeur sportif qui fait venir l'entraîneur. Les deux semblent marcher sur la même longueur d'onde. Ils ne prennent pas un choix sans discuter avec l'autre. Je pense que voilà, une entreprise, parce que je répète, un club c'est une entreprise, marche que comme ça. Et voilà, il n'y aura pas l'entraîneur pour essayer de mettre un coup de poignard sur le dos de l'entraîneur et vice versa. Donc ouais, non, c'est un bon point. Et je pense que notre salut aussi passe par là, par l'entente entre directeur sportif et entraîneur.
Qui prend la suite?
Bah, je vais mais non, bah, comme l'a dit, d'une manière générale, il y a ce qu'il y a d'appréciable. Mais tout le monde oublie Scamacca en fait dans le chapeau. Ce qui est appréciable, c'est un triumvirat où chacun connaît son rôle. Et ça ne se tire pas dans les pattes. Alors après, il y a un bug, c'est qu'il y a un deuxième directeur sportif. À voir comment ça se passe à ce niveau-là. On a vu des petites mises sous pression de la part de Galtier dans ses interviews en mode « il faut vendre ». C'était clairement des mises sous pression d'Enrique. Enfin, en tout cas, je les ai interprétés comme tels. Il y a des rumeurs qui viennent. Donc, il y a peut-être des couacs à ce niveau-là. Mais en soi, le triumvirat, moi, j'aurais préféré, tout le monde le sait, j'aurais préféré avoir un coach qui est directement, qui parle directement de jeu, etc., etc. Mais ce triumvirat-là m'a l'air performant, cohérent. Après, restera à voir si ça marchera avec Paris. Et ça, c'est le temps qu'il dira. Et peut-être un petit peu de chance, parce qu'il faut un peu de chance pour cartonner, notamment en Ligue des Champions.
Moi, je pense qu'on est un peu comme dans les parrains, tu vois. Le trio, pour le moment, il est là, la famille, ils sont tous ensemble. Mais tu as le club qui a donné les pleins pouvoirs à Campos et en même temps, tu as Enrique qui est plus le bras droit de Nasser, qui est assez proche aussi du Qatar. Donc, à un moment, il peut y avoir des pistes où chacun peut essayer de placer. Non, on va faire capoter tel transfert. Je ne serais pas étonné qu'il y ait quelques embrouilles comme ça. Après, pour le moment, ça commence. Pour le moment, tout le monde est ensemble. Et a priori, chacun a son rôle défini, mais on verra bien.
Moi, ce qui me rassure, c'est que Campos et Otero ont déjà travaillé ensemble à Porto. Ouais. Et du coup, ils ont l'air de se connaître. Moi, ce qui me fait vraiment penser, c'est Nasser. J'ai l'impression que Nasser, en fait, on n'en parle pas assez. Mais c'est un peu l'homme qui est là depuis le début de nos remontadas et de nos échecs, si on peut appeler ça des échecs. Je pense que vraiment la Ligue des Champions. Et en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être lui qui pose problème. Parce que moi, au niveau de Antero et Lopez, bah, je n'ai pas vraiment de soucis parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble. Mais Nasser, est-ce qu'il va arriver à prendre du recul et laisser les pleins pouvoirs au duo pour suivre Antero et Luis Campos? J'ai des doutes.
Je me permets de t'interrompre parce qu'il y a une rumeur, mais pour l'instant, c'est qu'une rumeur qui sous-entendrait qu'entre Nasser et Campos, ça ne marche pas du tout.
Ouais, ce qui paraît.
Au point où il ne se parlerait plus. Quoi. Mais bon, ouais. Pour l'instant.
Dans ces cas-là, tu vas jusqu'au bout et tu changes Nasser. Hein, mais bon, ça, il le
fait. Non, c'est toujours un problème. Ouais.
Ouais. Après Nasser, on va pas, tu fais le procès de Nasser, faut pas oublier, il y a plein de trucs qu'il a fait mal, mais il y a plein de trucs qu'il a fait bien aussi. Tu vois, par exemple, la vente de l'image PSG, c'est Jean-Claude Blanc qui l'a chapeauté, mais c'est aussi Nasser qui est derrière, le rapport avec le CA, etc. Nasser, il y a beaucoup de négatifs dans la gestion du club en tant que tel, mais dans la gestion de l'autour du club, il y a beaucoup de positifs aussi. Donc. Si on s'amusait à faire son procès, il ne faudrait pas oublier ce qu'il a fait de bien, le Nasser.
Oui, mais maintenant, ça fait longtemps.
Non, mais on peut lui donner du crédit aussi dans le fait qu'il a changé de stratégie. Et même si peut-être il s'est trompé et tout ça, on a quand même...
Est-ce que c'est lui qui change de stratégie ou c'est au-dessus?
Le problème. Est-ce que ça, c'est lui qui la change ou est-ce qu'on lui a dit tu la changes et puis il a dit ok, mais en fait il la change pas vraiment. Tu vois, c'est ça la question en fait. Elle est là la question.
Ah, je sais pas, aujourd'hui par exemple, je me baladais sur Twitter et je vois que Pogba il est déjà blessé. Je me dis ah, moi j'aime bien le changement de direction.
C'est clair, là-dessus on est d'accord.
Campos pourrait plier bagage, vous croyez? Alors, moi, je vais dire quelque chose de simple. Campos, il est bien gentil et tout. Par contre, si ça commence à faire des choses qu'on lui a promis et au final, c'est pas ce qui se passe dans la réalité, à mon avis, il va partir très vite. Je pense que Alex, il pourra me confirmer tout ça.
Ah ouais, Campos, c'est un peu le Bielsa des acteurs sportifs. C'est-à-dire que tu lui promets un truc et derrière, c'est faux, il n'hésitera pas à partir, à quitter le navire. On l'a vu avec Lille, on l'a vu avec Monaco. Dès que ça ne lui plaît pas, dès qu'il voit qu'il ne peut plus apporter sa pierre à l'édifice, il se barre. Donc moi, c'est ce qui me fait peur. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'a jamais fait des projets à très long terme. C'est maximum 3 ans. Et en fait, dès qu'il y a un petit grain de sable, il peut vite. Il a un caractère très spécial qu'on pose. Et il peut vite partir en vrille. Donc il peut vite partir s'il voit que Nasser lui met des bâtons dans les roues.
Moi, je pense que de toute façon, le club a pris Campos.
Dans le milieu, c'est monsieur caca nerveux.
Merci de me couper la parole, Rias.
Non, mais c'est pour dire une bêtise. Donc, si tu veux, comme tu allais dire une bêtise, je me suis dit que je pouvais couper la parole en disant une bêtise, ça marche.
Je pense que le club a pris de base Campos pour un projet de toute façon de 2 ans ou 3 ans max. Tu as Campos Galtier là pour 2 ans. L'année prochaine, avec qui sera la saison clé, puisque là, on va avoir des joueurs importants et ce sera la restructuration du 11. Et un an après, je pense qu'il y aura un nouveau projet qui arrive pour vraiment faire marcher ce nouveau projet. Ils sont là en mode de transition. Enfin, je pense que le club a vu ça.
Mais moi, la question que je me pose, puisque est-ce que Campos pourrait partir, c'est surtout, est-ce que Sacramento pourrait partir? Et c'est ça qui m'inquiète. Parce que le truc, c'est que moi, j'ai vu des choses dans des trucs d'animation dans le 11. Si quelqu'un essaie de me vendre que c'est Galtier qui les a mis en place, je ne le croirais pas. Donc, si moi vraiment, tu sais, c'est Sacramento. Tout le monde sait que Sacramento, il a des ambitions, il a envie d'être numéro un. Il s'est sans doute dit, ouais, pourquoi pas, c'est Campos, c'est un triumvirat que je connais, ça va pouvoir marcher. Il va pouvoir développer des trucs, etc., gagner en expérience, travailler avec des joueurs et peut-être faire taire les rumeurs, les vilaines rumeurs qui sont nées de son passage à Tottenham et à la Roma. Et voilà. Mais s'il part, qu'est-ce qui se passe?
Sacramento, c'est comme Campos, il reste max 2 ans. Donc tu vas voir. Et par contre, Galtier peut rester très longtemps comme à Saint-Etienne. Ni Campos ni Sacramento, mais on va avoir Galtier pour 10 ans, t'es content?
Non, Sacramento, est-ce qu'il est l'année prochaine? C'est pas sûr.
Ouais. On verra.
Bah, écoutez, tous ceux qui nous regardent, on vous remercie énormément. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker le live. Là, je vois, vous êtes 208. On veut 200 likes parce que si vous êtes là, ça veut dire que vous appréciez le live. Sinon, vous serez parti. Donc, s'il vous plaît, juste mettez un like. C'est gratuit et ça nous aide énormément. Merci d'avoir suivi le Paris Central Show. C'était sympa de vous avoir 3 jours de suite pour le Central Weekend. J'espère que vous avez apprécié. Dryas, Alex, Basto, vous avez kiffé le week-end?
On est bien dimanche.
Ouais, il est passé vite, mais...
C'est ma faute.
Ouais, demain c'est la reprise et on vous souhaite bon courage pour la reprise demain si vous n'êtes pas en vacances, et sinon on se retrouve dans la semaine sur la chaîne Paris Central et ici